Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Alors ce soir, je suis un peu seul parce que notre ami Philippe Christel est parti en voyage professionnel en dehors de nos frontières européennes. Notre ami Pascal Essérick n'a pas pu venir, mais nous l'aurons tout à l'heure par téléphone. Ce soir, mais je suis bien entouré, ce soir nous allons aborder la guerre culturelle. La guerre culturelle aura-t-elle lieu? Car si nous avons pu voir ce week-end la gauche perdre les élections départementales, il y a une autre bataille qu'elle est en train de perdre, c'est bien celle des idées. Alors pour l'aborder, nous allons diviser notre émission en deux parties. Une première partie où nous aurons par téléphone Pascal Essérick, rédacteur en chef de la revue Éléments. La revue Éléments qui a été au centre de la polémique de ce qu'on a appelé l'affaire Valls-Onfray. Et Pascal Essérick nous expliquera que cette polémique n'est qu'une répétition d'une tactique que la gauche utilise depuis presque un quart de siècle, et il nous expliquera tous les mécanismes. En deuxième partie, nous aurons le plaisir de recevoir une partie de l'équipe de l'Institut Iliade, institut créé à la suite de la mort de Dominique Vénère, et qui fait partie de ces outils précieux de formation et d'information menant le combat des idées. Alors, ils sont déjà dans le studio, donc je vais déjà les présenter, sachant qu'ils pourront bien sûr intervenir lors de l'entretien avec Pascal Essérick. Alors, nous commençons par une vieille connaissance des chroniques de la Vieille Europe et les auditeurs de Radio Courtoisie, Grégoire Gambier. Bonsoir Grégoire.
Bonsoir Patrick.
Alors vous êtes porte-parole, l'un des porte-paroles de l'Institut Iliade.
Ben oui, vous savez que dans le milieu du journalisme, ça se fait, ce sont des ménages. Donc de temps en temps, on fait de la com, voilà. Et donc j'interviens effectivement pour l'Institut Iliade, pour la longue mémoire européenne.
Voilà. Et le deuxième porte-parole, c'est Pierre Brabant. Bonsoir.
Bonsoir Patrick, bonsoir à tous les auditeurs. Porte-parole également, en charge plus particulièrement de l'organisation du colloque de l'Institut Iliade.
D'accord, nous en parlerons tout à l'heure. Et nous avons Charles Dulac, qui est le président de la première promotion de l'Institut Iliade, la promotion Dominique Vénère. Bonsoir Charles Dulac.
Bonsoir Patrick et bonsoir chers auditeurs.
Alors, nous allons maintenant essayer, et vous n'hésitez pas si vous avez besoin d'intervenir pendant cette première partie, nous allons rejoindre par téléphone notre ami Pascal Essérick, et la technique me fait signe. Bonsoir Pascal Essérick.
Bonsoir.
Alors, vous n'avez pas pu être avec nous ce soir, et pourtant le mois dernier, mon cher Pascal, on peut dire que la revue Éléments est l'un de ses principaux collaborateurs, Alain de Benoist, s'est retrouvé être la cible du Premier ministre à travers la figure de Michel Onfray. Alors, avant de poser ma première question, je vais essayer de résumer l'histoire rapidement, puis vous me corrigerez si je me trompe. C'est lors de la sortie du dernier numéro d'Éléments, consacré principalement à un entretien entre Éric Zemmour et Alain de Benoist, le journaliste Fabrice Valclérieux consacre un article au philosophe normand Michel Onfray, sur plutôt élogieux et sur le sérieux de son travail philosophique. Plusieurs semaines plus tard, lors d'un entretien de Michel Onfray dans Le Point, Sébastien Le Foll, qui est le directeur de la rédaction, lui rappelle que la revue Éléments a fait l'éloge de son travail, lui demandant s'il n'y a pas une contradiction. Et lors de ces questions, Michel Onfray explique qu'il préfère une idée juste d'Alain de Benoist à une idée fausse de Bernard-Henri Lévy. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Par contre, le dimanche matin, Manuel Valls attaque Michel Onfray. Alors Pascal Essérick, vous êtes journaliste, vous connaissez les méthodes. Le choix du dimanche matin, ce n'est pas du hasard, c'est une machine bien huilée qui va se mettre en marche.
Exactement. C'est une machine bien huilée, mais qui ne produit que du vide, hein. Ou plutôt qui tourne à vide. Alors bon, tout commence effectivement le dimanche matin. Le premier à tirer, d'ailleurs, ce n'est pas Manuel Valls, mais Jean-Marie Le Guen, qui est le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, auteur d'un rapport, ni fait ni affaire, sur intitulé « Le Front National, le combat prioritaire de la gauche ». Et donc, le ministre déclare au journal du dimanche « Je suis effrayé quand je lis dans Le Point, sous la plume de Michel Onfray, que mieux vaut Alain de Benoist plutôt que Bernard Lévy. Mais où va-t-on? Toutes ces dérives creusent le sillon de Marine Le Pen. » Alors, ce n'est que quelques heures plus tard, Manuel Valls qui va remettre le couvert sur Europe 1, avec à peu près, lors du grand rendez-vous d'Europe 1, avec à peu près les mêmes mots, qui dénoncent Michel Onfray, le philosophe connu, apprécié de beaucoup de Français, qui préfère Alain de Benoist, qui a façonné la matrice idéologique du Front National, plutôt que Bernard-Henri Lévy. Et c'est là que la concomitance des déclarations de ces deux hommes politiques montre qu'ils ont exécuté une véritable stratégie de communication. Le plus beau, est à venir en réalité, parce que en faisant ces déclarations incendiaires le dimanche matin, les dirigeants socialistes savent qu'ils vont donner le ton à toute la semaine politique précédant les élections. Et d'abord au quotidien du lundi matin, parce que les attachés de presse du PS qui sont après et plus particulièrement d'ailleurs, parce qu'elles sont peut-être plus professionnelles, les équipes d'Europe 1, textotent pendant toute l'après-midi la fameuse phrase aux journalistes politiques pour l'édition donc du lendemain, en espérant, parce que c'est leur boulot, une reprise, c'est-à-dire, dans le langage professionnel, une citation en réalité. Et le lundi matin, tout le monde va s'arracher Michel Onfray dans les matinales radio. Il fait d'ailleurs la tournée des popotes en insultant copieusement le Premier ministre.
Oui, bah, il va faire France Inter, je crois, oui, BFM.
France Inter et même RMC Info. Les auditeurs vont entendre parler d'Éléments et d'Alain Benoît. Et l'après-midi, c'est la même musique. C'est le tour des hebdos. Donc d'un point de vue médiatique, les équipes de communication du Premier ministre ont fait le travail.
Boulot.
Manuel Valls a donné le ton pendant toute la semaine médiatique qui précède les élections. Ça a été un carton plein. Mais en réalité, et c'est pour ça que je parlais de vide, il a été ridicule, plein de suffisance, en parlant de deux philosophes dont il a vraisemblablement jamais lu une seule ligne. Mais bon, on a parlé de lui dans les médias, Nicolas Sarkozy utilisait les mêmes méthodes de communication. C'est ce que Michel Onfray, en parlant des petits gominés trentenaires qu'il y avait autour de Manuel Valls, c'est ce que dénonçait le philosophe normand. Donc voilà.
Alors, il s'est légèrement trompé parce que les fameux gominés qu'on avait vus en couverture de l'Obs, c'était ceux du président. Enfin, je pense qu'ils doivent être à peu près pareils du côté de chez Matignon. Alors, ce genre d'attaque est comme vous l'avez expliqué, est préparé. Souvent, c'est quand la gauche se trouve en difficulté idéologique, qu'elle est divisée ou qu'elle perd une élection. La méthode, elle est simple, c'est se rassembler toujours autour de l'idée commune de l'antifascisme. En 79, on a eu la même chose au moment où le PC et le PS se divisent sur le programme commun et qu'ils perdent les législatives de 78, ils lancent leur campagne contre la nouvelle droite, enfin le GRES, qu'ils désignent comme la nouvelle droite pour affaiblir la droite de Giscard. La méthode a été la même et on a vu depuis 40 ans ce genre de phénomène se développer jusqu'à aujourd'hui.
Alors, à l'époque, elle avait été beaucoup mieux exécutée, si vous me permettez. À l'époque, l'article de Thierry Pfister dans Le Monde avait donné le coup d'envoi à une phénoménale campagne de presse qui a duré tout l'été. Bon, ben l'objectif, vous l'avez dit, c'était de faire peur à la droite institutionnelle. Mais le premier électeur en chef d'Éléments, Jean-Claude Vallat, a parfaitement décrit la mécanique de cette campagne de diabolisation. Donc je vais pas m'étendre, mais je recommande à vos auditeurs son livre de mémoire,
hein, oui.
Qui s'appelle Engagement pour la civilisation européenne, paru aux éditions Alexis Pharmac, et dans lequel il décrit toute cette mécanique. Disons que la différence, c'est la virulence de réaction de Michel Onfray, qui, je crois, marque une rupture franche et nette avec cette espèce de peur instillée par les politiques. Il faut dire que ces propos avaient été tellement déformés par Manuel Valls et Jean-Marie Le Guen que il avait beau jeu de leur remettre à la figure, mais je crois que ça, il y a une rupture. Peut-être est-ce aussi l'effet, peut-être est-ce aussi l'époque qui a changé, mais je crois qu'il y a vraiment une rupture.
Oui, et puis les événements, parce que on parlait de la campagne de 79 qui va se terminer en fait dans le début des années 80 et je rappelle toujours cette, et vous avez raison de citer les mémoires de Jean-Claude Vallard, où il explique qu'il y a eu déjà à l'époque, en 80, l'apothéose, ça a été BHL qui, dans un article, voilà, je crois, du Matin, soupçonnant les articles du Figaro Magazine tenus par Jean-Claude Vallard à l'époque, d'être indirectement responsable de l'attentat de la rue Copernic. C'est-à-dire que là, on va très très loin à l'époque. Hein.
Oui, la théorie du climat, quoi. Donc je rappelle, en octobre 80, il y a une bombe qui explose devant la synagogue de la rue Copernic et qui provoque la mort de 4 passants. Et bien sûr, Bernard-Henri Lévy, là, vous rappeliez ses propos dans le... Non, c'est dans le Quotidien de Paris.
Quotidien de Paris, pardon.
Ouais. C'est toujours délicat d'établir des liens de cause à effet entre le discours et les actes, mais il ne me paraît pas absurde de dire tout le ramdam qu'on a fait autour des thèses indo-européennes a préparé le terrain à la situation d'aujourd'hui. Mais enfin, bon, il n'est pas le seul. Hein. Jean-Pierre Bloch, le président de la LICRA, s'invite sur TF1 et dit à peu près les mêmes choses en accusant nommément Louis Powels, le patron du Figaro Magazine. C'est cette thèse du climat qui, pendant 30 ans, va être reprise par la génération BHL, c'est-à-dire des gens, enfin donc Bernard Lévy, Caroline Fourest, c'est une méthode d'intimidation. Comment on va pouvoir mettre sur le dos d'un écrivain, d'un journaliste, le climat. Alors le climat, c'est le retour aux années 30, etc., etc.
C'est très drôle parce que l'article de BHL à l'époque parlait déjà des articles sur les Indo-Européens et vous avez eu il y a à peine un mois un livre de Jean-Paul Demoule sur les Indo-Européens et qui conteste les fameuses thèses sur l'indo-européanisme. Donc c'est toujours les mêmes sujets qu'on rabâche et les mêmes mensonges.
Oui, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes thèmes d'une bataille de 30 à 40 ans, quoi. Donc depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, alors certains appellent ça la guerre culturelle, mais ce sont des batailles d'imposition qui sont vous évoquiez Jean-Paul Demoule. Jean-Paul Demoule dans les années 80 effectivement multiplié les dossiers de l'histoire sur ce thème, hein, les Indo-Européens n'ont pas existé. 40 ans plus tard, il est sur les mêmes thèmes. Il fait un dictionnaire, il fait un gros livre de 800 pages dont on va parler dans le prochain numéro d'Éléments d'ailleurs, en expliquant toujours la même thèse. Donc voilà, c'est cette guerre culturelle qui, en tout cas, nous de notre côté, nous menons à Éléments.
Alors, revenons un peu sur l'origine de l'affaire Onfray-Val. C'est Éléments avait commencé à parler en 2012, en juillet 2012, parlant d'un retour de cette diabolisation. Suivra un ou deux mois après, mais vous l'avez pas fait exprès, le fameux numéro du Nouvel Observateur sur les néo-fachos. Par la suite, cela va se préciser avec Bernard-Henri Lévy qui va parler devant des étudiants ukrainiens sur la situation entre l'Ukraine et la Russie. Et va citer Alain de Benoist comme l'inventeur du nouveau fascisme français, hein, c'est ses termes. Nous aurons aussi Noël Mamère qui va faire un petit livre il y a quelques mois, plus récemment Edoui Plenel dans Mediapart, et ensuite, alors l'apothéose c'est quand même Renaud Dely qui explique que Alain de Benoist a exactement le même discours que Marine Le Pen.
Oui, c'est faire peur, vous avez raison, c'est... pendant longtemps, en gros, depuis le milieu des années 80, le Parti Socialiste les idéologues de gauche ont ritualisé cette stratégie de la peur face au FN d'abord. Et curieux de voir qu'aujourd'hui, il faut lire aujourd'hui tout le désarroi d'un Jean Daniel, par exemple, sur l'éditorialiste du Nouvel Observateur, qui a écrit après les municipales de 2014 que la vraie victoire du Front National au premier tour, ce n'est pas d'avoir ramassé un plus grand nombre de voix dans des municipales inattendues, c'est de ne plus faire peur. Parce que c'est chez Renaud Dely, comme chez les acteurs politiques de gauche, cela provoque une immense incompréhension et un désarroi. Parce que la peur a été leur fond de commerce. Il faut se souvenir de la une de Libération, Front National, peur sur les villes. À gauche, il faut toujours réveiller les peurs salutaires. C'est la peur du retour des années 30 qui reste très très tendance en ce moment. C'est Alain Duhamel qui écrit que Marine Le Pen est une résurgence des années 30. C'est Claude Haskolovitch, Pascal Blanchard, Renaud Dely, encore lui, Yvan Gastaud qui publie « Les années 30 sont de retour ». C'est l'essayiste Philippe Bourcuff qui vient de sortir « Les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard ». Donc, pour lui, je vous résume, hein, l'affaire Big Malion, c'est Stavisky, valeur actuelle, c'est Gringoire, les Jeux Olympiques de Sochi, c'est Berlin, Maurras est à l'Académie française en 38, mais aujourd'hui, c'est Finkielkraut qui est chez les Immortels en 2014, etc., etc. C'est le faire peur. Voilà, c'est le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre pour garder alors ce qu'il nomme hégémonie culturelle, c'est de faire peur. Voilà.
Alors cette stratégie,
c'est pour ça que, excusez-moi,
oui,
la réaction de Michel Onfray, qui traite le Premier ministre de crétin, c'est salutaire. Voilà. Parce qu'il brise chez les intellectuels dits de gauche, il brise, je crois qu'il voilà, il brise la glace, quoi. Et je pense qu'à l'avenir, beaucoup vont pouvoir. Je pense que ça va libérer beaucoup de. Ça va libérer la parole. Voilà.
Grégoire Grandbier qui voulait intervenir.
Oui, bah tout à fait pour confirmer là, ce que venait de dire Pascal et Céric. Je crois qu'il y a deux faits novateurs, en tout cas porteurs d'avenir dans cette dans cet épisode. C'est le premier, effectivement, c'est le refus de l'intimidation. Je crois que vous l'avez bien souligné. Il est quand même assez rare, en tout cas assez rarement, enfin très peu explicite à ce point-là. Et il faut reconnaître le courage de Michel Onfray parlant du Premier ministre comme un crétin au sens exact du terme, c'est-à-dire ne comprenant pas ce qu'il dit ou ce qu'il fait, et ça appuie de façon beaucoup plus spectaculaire, parce que là, Michel Onfray, on peut vraiment pas le soupçonner d'être de droite, ontologiquement, idéologiquement, structurellement, contrairement à des Zemmour, des Camus, voire Richard Millet, même si là aussi il vient de très loin. Mais on voit bien qu'il y a un mouvement de fond qui est d'un refus désormais, au nom de l'intelligence, hein, d'abord, hein, et plus que pour des raisons politiques bien sûr, au nom de l'intelligence, un refus de l'intimidation qui est évidemment la marque de fabrique et la méthode, comme vous le rappeliez, depuis les années 70 au moins, de la gauche dite intellectuelle. Le deuxième fait d'avenir, est, parce qu'il est lié, c'est la reprise politique, l'exploitation politique du fait, et en tout cas de la du mot employé par Michel Onfray à l'Assemblée nationale, par le camp national, en tout cas par Marion Maréchal Le Pen, qui a très bien rebondi et très rapidement sur la polémique et de façon assez intelligente, et avec d'ailleurs l'effet escompté qui était que Manuel Valls sorte encore plus de ses gonds, parce qu'il savait très bien qu'il était dans un corner en lisant une fiche mal préparée par un petit gommeux trentenaire de son cabinet. Donc il était ferré, de plus en plus ferré. Donc il a joué le jeu aussi parce qu'on était en campagne électorale, etc. Bon, tout le monde jouait le jeu, mais ça c'est suffisamment rare pour être souligné, en tout cas à droite, hein, qui est, à droite au sens large, hein, nouvelle, ancienne, européenne, nationale, comme vous voulez, mais un lien qui peut être fait très rapidement et de façon assez efficace, en tout cas dialectiquement, entre un personnage intellectuel, quel qu'il soit, un mot, une idée, et sa reprise et son amplification politique, parce que le politique est aussi là pour ça et pas uniquement pour gérer des conseils départementaux. Donc ça me paraît être deux faits, surtout que le deuxième est suffisamment rare pour être souligné, hein, parce qu'on c'est vraiment pas le propre des partis politiques de droite, y compris et surtout de la droite dite nationale ou du camp nationaliste, pour faire plus court ou plus étroit, c'est suffisamment rare pour être souligné, donc ce lien possible, dialectique au moins, entre une prise de position intellectuelle et un discours politique qui l'appuie et donc qui contribue à redonner de la liberté, de l'oxygène au débat intellectuel.
Juste pour compléter ce que disait Grégoire, on dit que ça fait 40 ans, mais la stratégie de diabolisation, c'est en travaillant sur cette émission, a été efficace à une époque aussi, et on pourrait remonter même au fameux 6 février 34, car contrairement à la légende de la gauche qui interprète les événements du 6 février comme la preuve d'un danger fasciste en France, pour la petite histoire, il faut savoir que ce jour-là, l'Association républicaine des anciens combattants, l'ARAC, qui était un satellite officieux du Parti communiste, avait appelé également ses troupes à défiler le 6 février. Et donc, c'était pas simplement une histoire d'une prise du pouvoir. Mais cela permettra de mettre en place l'union de la gauche, ce qui prouve que politiquement, ça a marché. Pascal Essérick, On a effectivement vu que cette guerre culturelle est menée du côté de la gauche par une diabolisation. L'universitaire Gaël Brustier a écrit un livre sur cette fameuse guerre culturelle. Et on s'aperçoit que des politiques aujourd'hui comme Julien Drey ou Jean-Christophe Cambadélis expliquent que la gauche a perdu la guerre culturelle. Mais de quoi parle-t-on exactement en parlant de guerre culturelle ?
C'est vrai que à la fois il y a tout un courant à gauche sur Gaël Brustier, Julien Drey qui reprennent effectivement ce terme de la guerre culturelle en pensant pouvoir la mener en parlant plutôt en termes de slogan plutôt que du fond, puisque je lisais le numéro de l'Express apparaître demain avec une grande interview de Julien Drey qui disait la gauche a perdu l'hégémonie culturelle, il faut mener la guerre culturelle, et d'ailleurs l'école c'est la gauche. C'est-à-dire
Oui, c'est un peu court quand même.
C'est quand même très court. Et puis tout le reste était consacré à des positions, à des guerres en réalité entre réformateurs à la Macron, qu'il défendait, une apologie du métissage. Donc ils reprennent ce terme de comme un mantra de guerre culturelle, mais s'ils n'ont que ça à proposer des cordons sanitaires pour se protéger, ça va très mal finir pour eux, parce que à force de d'ériger des murailles, à force de refuser le débat, la gauche est devenue presque biologiquement inapte à débattre, et c'est ça que je perçois, parce que à travers l'affaire Michel Onfray, c'est parler aussi de tous ces noms qui font désormais peur. Parler de l'affaire Michel Onfray, c'est parler de cette classe dirigeante qui refuse le débat et qui a besoin de trembler à l'idée que un nouveau mannequin sort en librairie tous les mois. Je veux dire, si on en est là, la mort cérébrale est assez, est là. Parce que il y a l'affaire Onfray, mais il y a aussi l'affaire Renaud Camus, il y a aussi l'affaire Alain Finkielkraut, l'affaire Michel Houellebecq, l'affaire Michéa, l'affaire Richard Millet, l'affaire Christophe Guilly, les affaires Éric Zemmour. Mais je pourrais continuer et parler de Philippe Meret, Jean Clair, Elisabeth Lévy, Marcel Gauchet. Quelqu'un comme Marcel Gauchet mis
à l'index,
mais presque lors de lors du festival de d'histoire, lors des rencontres d'histoire de Blois. À force de mettre de refuser ce débat, la gauche n'arrive plus à débattre. Et je crois que c'est l'enseignement de ces 10 dernières années. Quand Jean-François Cambadélis dit la gauche a perdu l'hégémonie culturelle depuis 10 ans, on en voit là le résultat.
Pierre Brabant.
Oui, pour aller dans le sens de Pascal et Céric, ce camp du bien répète des mantras, utilise les mêmes techniques, et on voit qu'elles sont de moins en moins efficaces, puisque Julien Dray a été cité, c'est lui qui a inventé « Touche pas à mon pote », qui s'est précipité dans le bureau de Hollande pour orchestrer l'esprit du 11 janvier, et s'est retombé comme un soufflet. C'est-à-dire que ces techniques qui ont fonctionné ne fonctionnent plus, n'ont plus de prise. Il y a un autre indice, c'est quand on envoie Raphaël Glucksmann sur Canal+, pour être le gardien du camp du bien et faire régner la peur à son tour, ça fait plus peur à grand monde que Raphaël Glucksmann. Donc il y a un certain nombre d'indices qui montrent que leurs techniques sont épuisées et qu'il n'y a plus de ressources.
Alors là, je pourrais poser la question à tous. Il y a quand même, on a vu les résultats électoraux. Il y a eu quand même, on s'aperçoit, il faudrait peut-être analyser un peu plus ces votes, mais il y a eu une mobilisation de la gauche. Parce que le but, quand même, dans cette histoire d'Emmanuel Valls, c'est pas simplement de ridiculiser, d'essayer de contredire Michel Onfray sur le plan philosophique ou Alain de Benoît, c'est de faire peur pour que la gauche se mobilise vers et de réunir la gauche autour d'une élection. On s'est aperçu quand même, alors après il y a toujours plusieurs thèses, est-ce que c'est la mobilisation ou le programme du Front National ou de la droite qui n'a pas été assez bon, mais enfin il y a eu quand même une sorte de réveil de la part des électeurs de gauche qui ont fait un peu un barrage. Est-ce que c'est un épiphénomène ou c'est encore assez efficace?
Alors moi, si vous me posez la question,
oui, je vous la pose.
Un premier ministre qui dit le livre de Zemmour ne mérite pas qu'on le lise et qui lance comme ça des imprécations. Alors c'était que sur Éric Zemmour, mais c'est aussi sur Michel Houellebecq, c'est aussi sur un certain nombre de. Peut-être qu'il a réussi à ponctuellement réunir son camp, ça je ne le sais pas, mais en tout cas ce que je sais c'est que ce n'est pas une stratégie viable à long terme. La construction du mur Maginot et ce n'est pas possible.
Mais c'est surtout que la question est un peu bizarre, si je me permets. Il a réuni son camp dans le champ électoral,
oui,
qui est une maladie française. Or, la bataille culturelle, et la gauche le savait bien, elle se gagne ailleurs. Elle se gagne dans les médias, à l'école. C'est ça qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre. Donc, effectivement, c'est un épiphénomène de rassembler les quelques votants sur une consultation électorale.
Grégoire Gambier.
Oui, en fait, ce qu'on mesure, enfin, il faudra faire une analyse très fine sociologique des résultats électoraux, et je pense que personne ne l'a fait ici, puis c'est pas notre rôle ni notre métier. Mais ce qui est assez fascinant dans cette affaire, en effet, c'est pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, où la gauche est en gros à l'encéphalogramme plat de toute réflexion idéologique ou même de toute idée novatrice. C'est l'utilitarisme strict et grossier de la méthode.
Oui.
L'antifascisme de Pacotille, de Manuel Valls, donc il y a une histoire personnelle forcément marquée, quoique pas tant que ça, selon les gens très bien informés, par l'antifranquisme, mais en tout cas, mythologiquement, si. Il en est encore là. On a l'impression que c'est la gauche des années 80. Enfin, c'est la gauche SOS racisme.
Avec le petit collier de barbe, presque.
Alors que c'est censé être la gauche 2.0 des lois Macron, parce qu'il va y en avoir quelques-unes qui vont venir, et du ralliement en gros à la globalisation américaine. Donc il y a une espèce de tension là entre, effectivement, comme le disait Pierre Brabant à l'instant, un échec sur le front culturel et éducatif, pédagogique, et je pense qu'on en reparlera dans l'émission en ce qui concerne les objectifs de l'Institut Iliade. Donc un échec patent, là, on le voit bien sur le front intellectuel. Et du coup, une résistance stricte sur le front électoral et politicien, j'ai envie de dire, donc qui effectivement a peut-être un peu marché, parce que voilà, hein, on sait très bien les pesanteurs des lois électorales, en tout cas des courants électoraux, mais effectivement c'est à courte vue, parce que on n'a jamais entendu parler autant de Gramsci sur les plateaux de télévision là ces derniers jours depuis les travaux de la Nouvelle Droite, hein, pour faire très court. Et mais effectivement, c'est le Gramsci qui tourne la vide. C'est-à-dire, ah oui, on a perdu la bataille des idées, mais on va au moins gagner, conserver un petit peu de ce qui nous reste du pouvoir symbolique, purement symbolique, institutionnel, politique, ministériel, au moins tant que ça dure, et tant que, effectivement, nos adversaires, eux, s'effondrent eux-mêmes aussi, du fait de leurs contradictions internes. Mais c'est vrai qu'on voit, il n'y a pas de plan B, et il y a une béance qui est en train de se créer entre la capacité de la gauche. On va pas pleurer hein, ce soir, je pense, pour devant les...
Non, enfin, les auditeurs de Radio Courtoisie ne pleurent pas.
C'est plutôt fascinant, il faut être entomologiste dans ces cas-là. Hein. C'est la façon dont cette gauche, effectivement, se meurt par l'inanité de ses idées, d'abord, et ensuite l'inanité de son comportement et de ses propositions politiques. Mais effectivement, là, il y a un lien entre l'absence d'idées et l'absence de capacité à faire de la politique au sens réel du terme, hein, qui n'est pas de la gestion. Voilà.
Exactement. C'est très curieux. Ils n'ont pas vu la multiplication des cercles, toute cette nouvelle culture finalement autour des clubs de formation, des petits éditeurs, des sites de réinformation, de tous les canaux alternatifs qui finalement mis bout à bout jouent un petit peu le rôle des samizdats de l'époque soviétique. Ils n'ont pas vu toute cette contre-société depuis 10 ans se structurer, partir peut-être dans quelquefois dans tous les sens, mais élaborer, travailler sur des nouveaux concepts, sur des et tout ça où finalement quels sont de l'autre côté, finalement à gauche, quel est le travail qu'ils ont fait depuis 10 ans? Il est proche du néant. Je crois que ça c'est important.
Mais le peuple, Pierre Brabant, le peuple de gauche, en tout cas ses représentants, est un peuple gras, un peu comme un colonisateur. Ils ont d'ailleurs très bien colonisé les esprits de droite, faut quand même le rappeler, parce que là on parle de gauche droite, mais c'est quand même tout le spectre de la politique qui est colonisée par ces idées de gauche à l'origine. Donc quand on a conquis tous ces territoires, on se repose sur ses acquis.
On est repu.
On est repu. Voilà. Donc il leur faudrait un petit stage dans la neige à nos amis pour qu'ils reprennent du poil de la bête et que les débats redeviennent intéressants. Enfin, en tout cas, ça serait.
Ou dans les rizières en Camargue.
Les rizières en Camargue, oui.
Voilà. Ou tirer des chars à la place des bœufs.
Pascal Isséric, en dehors de la polémique, bon, avouez-le, vous avez pris comme attaché de presse Manuel Valls, parce que je pense que pour la revue Éléments, ça n'a pas été une mauvaise chose. On a vu ressurgir le nom d'Alain de Benoist en dehors de certains cercles. C'était même assez drôle pour l'anecdote de voir sur Arte tout un débat là-dessus, où il y avait même Renaud Dely et l'un des directeurs du Point, qui en a parlé pendant 5 minutes et au bout de 5 minutes a quand même avoué que de toute façon il croyait qu'Alain de Benoist était mort depuis longtemps. Mais il était capable d'en parler.
Est-ce oui, que vous avez... c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est tous ces gens-là négligent tous ces... Ils ont négligé tous ces cercles, tous ces parce que je pense qu'il y a une nouvelle culture qui est en train de d'émerger, tous ces clubs de formation, de formation, ou par exemple l'Institut Iliade, ou par exemple l'Institut, etc. Ils n'ont Dieu que pour les médias de masse et je pense qu'ils passent à côté de tout ça.
Alors donc la revue se porte bien, vous avez eu vraiment un effet vente.
Alors oui, bien évidemment, un effet de curiosité, bienvenu, mais qui ne nous empêchera pas. De continuer notre travail déchiffrer un petit peu de nouveaux auteurs, nouveaux espaces intellectuels, etc. Donc faire notre travail comme nous l'avons fait depuis une quarantaine d'années avec les rédacteurs en chef successifs régulièrement la grande presse redécouvre le travail mené par la revue Élément ou la revue Crisis ou la revue Nouvelle École. Régulièrement ils en font leur chou gras. J'imagine aussi qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation. Donc nous on continue.
En parlant de ça, l'anecdote est assez drôle parce que certains journalistes sur Twitter se sont aperçus qu'il y avait il y a eu un colloque à Rome qui a été avec les invités d'Alain de Benoist et d'Éric Zemmour où il y avait plus de 500 personnes et 3 ou 4 quotidiens italiens ont fait un papier, parce que c'est vrai qu'en Italie la diabolisation n'est pas du tout la même, ont fait un papier pour expliquer ce colloque et on a eu des remarques sur le compte de Twitter de gens comme Ariane Chemin du Monde ou Abel Mes qui étaient étonnés que la presse italienne connaisse Alain de Benoist alors qu'il est en fait presque plus connu qu'en France. Pendant que je vous tiens, mon cher Pascal, quelques minutes, comme l'excellent numéro d'éléments avec l'entretien de Zemmour va bientôt sortir du kiosque. Un prochain numéro arrive d'ici une quinzaine de jours.
Oui.
Il y a quoi dedans?
Alors, on a travaillé sur la question du communautarisme. C'est une question qui travaille beaucoup le champ politique, c'est-à-dire de la droite à la gauche, de l'extrême droite à l'extrême gauche. C'est une question qui est brûlante on travaille sur un dossier assez copieux sur cette question-là. Faut-il haïr le communautarisme? Voilà, c'est la question que nous nous sommes posées.
Très bien. Bon, écoutez, on va vous laisser, puis on se retrouvera au moins le mois prochain sur Radio Courtoisie, j'espère, et dans ce studio. Merci, Pascal et Cyric. Alors, nous allons faire une légère pause musicale et nous retrouver pour la suite de cette guerre culturelle, mais cette fois-ci pour du concret, pour du dur. C'est avec l'Institut Iliade. reçu. Retour dans les chroniques de la vieille Europe sur le thème « La guerre culturelle aura-t-elle lieu ?» Dans cette deuxième partie, nous avons le plaisir d'avoir une partie de l'équipe de l'Institut Iliade. Grégoire Gambier, bien connu de nos auditeurs, qui est porte-parole de l'Institut Iliade. Alors, le titre exact, c'est l'Institut Iliade.
Pour la longue mémoire européenne.
Pour la longue mémoire européenne.
C'est pas le titre exact, c'est le titre dans son entièreté. Ensuite, en cours du débat, on pourra être plus court.
Voilà. Pierre Brabant, que vous avez entendu aussi, porte-parole de l'Institut Iliade, et Charles Dulac, président de la première promotion de l'Institut Iliade, et la promotion Dominique Vénère. Alors messieurs, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est à la suite de la mort de Dominique Vénère qu'est né l'Institut Iliade de sa propre demande. Première question simple, c'est quoi l'Institut Iliade? Est-elle une réponse concrète à cette fameuse guerre culturelle? En gros, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Et qu'est-ce que vous faites déjà? Grégoire, je pense que vous êtes le premier, puis après on passera, vous allez faire les grandes généralités, puis on passera sur le concret entre
les
activités.
Les généralités un peu oiseuses, je vous vois venir. Non, c'est la question qui était, en quoi l'Institut Iliade est une réponse à la guerre culturelle. Comme j'ai découvert le thème de cette émission en arrivant tout à l'heure, et que c'était la guerre culturelle, que ce soit plus clair pour les auditeurs de Radio Courtoisie, l'Institut Iliade est plutôt une réponse, si ça devait être une réponse un peu rapide, au grand remplacement. Plus qu'à la guerre culturelle, c'est-à-dire au fait très concret que nos peuples européens ou les peuples, le peuple français de souche européenne puisse être dépossédé de sa mémoire, de son identité et finalement de son sol. Si on tire cette rapide description en sens inverse, c'est-à-dire avant d'être dépossédé de son sol, donc d'être remplacé physiquement chez soi par d'autres, il faut avoir accepté cet état de fait. Cette acceptation, elle provient d'une attitude détestation de soi-même, ou en tout cas d'oubli de ce que l'on est et de ce qui fait sa propre altérité par rapport à d'autres. Et cet oubli de soi-même, c'est d'abord, c'est la conséquence de l'absence de mémoire et donc de l'oubli de son identité, de ses racines, de ce qui fait sa richesse et sa spécificité culturelle, historique, civilisationnelle au sens large. Donc c'est partant de cette petite description rapide, l'Institut Iliade pour la longue mémoire européenne, qui est son titre officiel, déposé en préfecture, œuvre donc au ressourcement des Européens sur le sol de leurs ancêtres, pour répondre donc justement au risque de grand effacement et donc de grand remplacement, qui est la conclusion finale, biologique, politique, d'un processus que l'on peut prendre davantage à la racine, et le temps presse.
Alors ça, c'est un vaste chantier, comme on dirait. Concrètement, parce que on a vu, je pense que certains de nos auditeurs ont dû même y participer. L'année dernière, il y avait un colloque rendant hommage à Dominique Vénère. C'est ce jour-là que l'Institut Iliade a été annoncé. C'est peut-être la partie la plus originale pour moi, c'est que vous faites de la formation. Et c'est-à-dire que vous mettez en place des groupes, des jeunes, et on en parlera tout à l'heure avec Charles Dulac, comment ils sont choisis, etc. Mmh. C'est l'une des pistes les plus importantes au sein de l'Institut Iliade.
Donc je reviens à mon idée première qui était peut-être alors pas suffisamment clairement exposée, puisque Patrick vous la reposez en disant mais concrètement. J'entends bien. Non, mais l'objectif, c'est pour ça que c'est l'objectif qui est important, c'est la transmission de la mémoire. C'est pour ça que c'est l'Institut.
Oui, vous auriez pu faire une revue.
Voilà, non mais j'y viens. Voilà. L'Institut Iliade pour la longue mémoire européenne a pour objectif la transmission de la civilisation européenne. Voilà, de ce qui fait les valeurs, les spécificités de la civilisation européenne. Transmission. La transmission, ça s'opère comment? Très brièvement, pour faire court, en deux façons possibles. La communication et la formation. La formation, en effet, nous nous avons monté un institut. L'Institut Milliard est un institut de formation en tant que tel, donc qui forme des promotions d'une vingtaine d'auditeurs par an. Mais Charles Dulac, qui s'y présente, qui est le président de la première promotion qui a commencé ses travaux là, au début de l'année civile, en janvier, la promotion de Dominique Vénère, en parlera tout à l'heure beaucoup mieux. Donc ça, c'est le premier biais. Effectivement, c'est la formation. La formation de jeunes ou de moins jeunes, hein, c'est 20-40 ans. Je pense que tout le monde, aujourd'hui, peut avoir besoin d'une formation au sens d'une information intelligente pour pouvoir transmettre les valeurs de notre civilisation. Ça peut être des jeunes, effectivement, en formation, des jeunes actifs, mais aussi des jeunes parents, voire des jeunes grands-parents, des jeunes retraités qui ont en charge aussi à transmettre ce qui fait... Alors, eux, ils sont pas dans les stages de formation aussi. Enfin, je vous rassure, mais en gros, tout le monde a besoin, tout au long de sa vie, de se former, de s'informer, etc., pour transmettre. C'est jamais acquis, hein. La transmission de la mémoire, c'est un effort de quasiment quotidien. Donc, mais c'est quand même la formation, effectivement, est une première priorité. Je finis sur les deux piliers de ce que c'est que la transmission. Bah, c'est la communication, bien sûr. Et là, pour le coup, qui s'adresse à un public plus large, hein, la communication. Donc ça prend ça prend plusieurs biais, hein, un site internet, des réseaux sociaux, des projets d'ouvrages de publication, des revues amies ou accueillantes pour les travaux ou les réflexions que l'on souhaite faire partager au plus grand nombre. L'idée, c'est bien de véhiculer une image aussi renouvelée et non pas folklorisée de la civilisation et de l'identité européenne, et qui est tout à fait d'ailleurs dans ce que souhaitait et ce qu'avait illustré Dominique Vénère lui-même, hein. La tradition, ça a rien à voir avec la nostalgie, hein. C'est ce qui ne passe pas, le murmure des temps anciens, c'est ce que l'on souhaite transmettre et ce que l'on croit, non seulement qu'on souhaite transmettre, parce qu'il n'y a pas ce que l'on croit aussi toujours vivant autour de nous. Et souvent, ce sont des choses qui existent, mais que l'on se refuse à voir, ou qu'on ne s'est pas habitué à voir. Alors, dans la nature, bien sûr, mais aussi dans l'architecture, l'art, la musique contemporaine aussi, même si, bon, là, il y a des débats, bien sûr, mais il y a des traces de notre tradition européenne qui perdurent aujourd'hui, et qui ne sont pas du tout ghettoisées ou folklorisées, qu'il nous faut nous réapproprier, parce que c'est le ciment et le levier de ce qui fera notre capacité à résister, une fois de plus, à notre disparition, qui est quand même le risque du grand remplacement. Il y a quand même toujours ce risque qui pèse, et c'est pourquoi nous sommes organisés pour agir.
Pierre Brabant, sur le...
C'est plus ou moins ce que je voulais préciser. Retrouver, il y a de vieux archaïsmes, hein, qui relèvent de la longue durée, de ce qu'on a toujours été, et qui sont toujours là. Simplement, on est un peu pris en étau entre ce monde marchand de la globalisation américaine et un monde un peu plus bourrin et vulgaire qu'est l'islam menaçant d'un autre côté. Comment on trouve notre place pour se ressourcer, aller à la source pérenne et être assez éveillé pour voir en France, en 2015, ici et maintenant, quelles sont les résurgences, quelles sont les permanences de ce qui font qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Et donc il faut, pour arriver à cette étape-là, il s'agit d'ouvrir des livres d'histoire, mais pas seulement. Il s'agit de s'inscrire dans une communauté, d'être en mode combattant, donc on transmet à des combattants. Donc le Institut Iliade a réellement des objectifs de combat, puisque le danger est très grand. Donc la formation dont nous parlerons tout à l'heure s'adresse vraiment à des têtes de pont, à des personnes qui peuvent essaimer au maximum dans tous les champs. Donc il y a cette dimension de combat qui ne peut pas être négligée dans ce qu'est l'Institut Iliade.
De combat culturel, hein, s'entend bien. Et là, du coup,
on boucle bien avec le thème de votre soirée.
C'est ce que j'allais dire.
Non, mais qu'on se méprenne pas.
Contrairement à Grégoire Gambier, j'avais lu, moi, le sujet de l'émission.
Non, parce sur Radio Courtoisie, il y a certains, par exemple, journalistes malintentionnés qui prennent l'émission en cours. Ils pourraient penser que nous sommes dans un complot, enfin, un nouveau 6 février 34, ce qui n'est pas le cas. Charles Dulac, vous êtes à la tête de cette promotion. Quels ont été les critères de sélection? Parce qu'on va avoir, après l'émission, que ça soit sur votre site internet, etc., beaucoup de demandes, beaucoup de gens vont vouloir rentrer à l'Iliade. Comment vous avez fait ce recrutement et les critères que vous avez utilisés?
Alors écoutez, déjà nous espérons en effet avoir beaucoup d'autres candidats. Nous en avons déjà énormément depuis que l'Institut Iliade a fait sa sortie médiatique le 21 décembre 2014, depuis que le site internet a été lancé. Nous recevons énormément de candidatures, ce qui montre qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande chez les jeunes européens ou ceux qui se disent encore européens. Écoutez, la sélection, dans un premier temps, elle a été assez simple. Il y a déjà une partie dans ce qu'est l'Institut Iliade aujourd'hui, dans l'équipe qui constitue l'Institut Iliade, il y a en quelque sorte deux générations. Il y a la génération du collège des fondateurs, qui sont Jean-Yves Le Gallou.
Vous pouvez les citer, oui.
Voilà, Jean-Yves Le Gallou, Philippe Conrad et Bernard Lugan. Et puis il y a une deuxième génération, un peu plus jeune. Qui assure un peu la mise en place administrative, etc., de l'Institut Iliade. Et il se trouve qu'un certain nombre de cette génération plus jeune se retrouvent dans la première promo. Pourquoi ? Parce que c'est justement eux qui, lorsque la génération plus ancienne, nos aînés, seront partis, c'est eux qui devront transmettre la flamme, c'est eux qui devront transmettre ce qu'ils ont appris à leurs enfants et à d'autres, évidemment, plus généralement. Et donc la sélection pour cette première promotion s'est donc faite de façon assez simple. Cela dit, la façon dont ça se passe, c'est que on a un questionnaire qu'on demande à ceux qui sont intéressés, qui prennent contact avec l'Institut Iliade, soit directement sur le site internet de l'Institut Iliade, où il y a une fiche de contact qu'on peut remplir avec un message, etc. Et puis, il y a aussi, évidemment, une adresse email que je me permets peut-être de rappeler au passage.
Oui, ben allez-y.
Donc, contact@institut-iliade.com.
De toute façon, on redonnera tout ça.
Voilà. Et donc, qui permet donc de prendre contact avec les organisateurs de l'Institut. On fait remplir un questionnaire pour s'assurer de l'engagement des futurs candidats, des futurs auditeurs, parce que bon, je crois que je vais développer ça peut-être un petit peu après, mais c'est une formule, cette formule de formation qui est une formule très exigeante. Et donc en effet, dans la sélection, une des premières choses qu'on va regarder, c'est de s'assurer que les personnes qui vont s'engager dans ce cycle de formation qui dure 18 mois savent à quoi elles s'engagent et elles vont vraiment s'engager jusqu'au bout. L'idée, on ne fait pas de l'événement. C'est pas être un simple consommateur d'une formation, c'est d'être vraiment engagé.
Faut peut-être rappeler, quand vous dites 18 mois, c'est-à-dire c'est sur une période de 18 mois, ce sont plusieurs séquences de week-end.
Tout à fait. Alors, mais juste pour finir sur la sélection, ce que disait Pierre Brabant tout à l'heure est important. Dans un premier temps, on s'adresse à des personnes qui sont déjà engagées dans la cité d'une façon ou d'une autre. Ça peut être en effet des engagements politiques, mais comme le disait Pascal Essery tout à l'heure, il y a tout un tas de cercles qui existent aujourd'hui et qui ressentent le besoin justement d'avoir une formation plus complète, plus fournie. Et donc on s'adresse dans un premier temps évidemment à ces personnes-là, des personnes qui vont essaimer cette formation dans leur propre cercle, etc. Et donc des personnes qui sont déjà engagées. L'idée, et c'est le cas justement de cette première promotion que je préside, et c'est un grand honneur évidemment, dans cette promotion, il n'y a pas vraiment de moyenne d'âge, parce qu'en fait, on commence, je crois, que la plus jeune à 25 ans, et on va jusqu'à 40 ans, je crois. Je pense
ça
que
va,
ça va, c'est
vrai,
c'est correct. Mais, mais je pense que dans les cycles futurs, la moyenne d'âge sera, je pense, plus basse. On a aussi veillé à ce que ce soit pas simplement des Parisiens qui soient représentés, mais ce sont des personnes qui viennent des quatre coins de la France. Il se trouve que dans la promo, on a même quelqu'un qui vient d'Irlande même. Donc on essaie même d'être européen. Donc voilà un peu sur le processus de sélection.
Alors il y a forcément des cours, des conférences, mais ils ne sont pas que passifs. C'est-à-dire qu'on leur demande un travail, quoi.
Tout à fait. On a essayé de définir une formule vraiment novatrice. En quoi elle est novatrice? D'abord dans son engagement, comme je le disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que les auditeurs vont s'engager sur une période de 18 mois avec 5 sessions. En fait, c'est 5 week-ends, mais c'est 2 jours complets. On commence pas à 11h, on commence à 9h et on finit... Enfin voilà, c'est vraiment 2 jours complets. On a entre chaque session, enfin au préalable de chaque session, il y a un peu de travail préalable qui est demandé, travail de lecture pour être préparé pour la thématique qui nourrit un peu le week-end. Les auditeurs doivent aussi s'engager à rendre un travail personnel. Donc tout au long de la formation, ils vont travailler sur un projet personnel qu'ils devront rendre en quelque sorte et qui permettra de clôturer ce premier cycle de formation. Donc voilà, c'est vraiment un vrai engagement. En quoi la formule est aussi novatrice? On a essayé dans ces week-ends de formation. L'idée, c'est pas d'avoir juste des conférences à la queue leu leu avec évidemment des grands intervenants qui connaissent bien leur sujet. Non, on a essayé de faire quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus moderne. En quoi c'est plus vivant? En quoi c'est plus moderne? D'abord parce que ce sont des interventions qui sont courtes. Des interventions de 45 minutes on met avant tout, bon, il est évident que dans la transmission, il y a d'abord un savoir qui doit être transmis. Les auditeurs ne savent pas tout évidemment quand ils arrivent, contrairement à ce que certains pédagogues de l'école d'aujourd'hui pensent. Mais voilà, il y a évidemment un savoir initial qui doit être transmis, et dans chaque intervention, il y a une part importante qui est laissée à l'échange entre l'intervenant et les 20 auditeurs qui constituent la promo. On a aussi des ateliers pratiques qu'on a imaginés sur chaque session. Donc voilà, il y a des ateliers pratiques. Par exemple, la première session qui a eu lieu fin janvier, il y avait un atelier pratique qui était citer les 30 plus hauts lieux d'Europe. Donc voilà, donc on essaie d'avoir quelque chose qui est assez vivant, qui est assez novateur et qui n'est pas simplement une succession de cours magistraux.
Qu'attendez-vous des candidats par la suite? C'est de devenir des acteurs dans la vie politique. On s'est aperçu l'exemple, et c'est dommage que vous n'existiez pas à l'époque. On s'est aperçu que il y a une jeunesse qui s'est réveillée au moment de la manif pour tous, et on s'aperçoit que il y avait une sorte de retour à la chose politique, puis elle a rien donné. C'est-à-dire que ensuite, ils se sont un peu éparpillés. Ceux qui étaient le plus politiques ont essayé de se mettre leur place quelque part.
Ben oui, ils ont fait sens commun. À l'UMP,
ils ont fait sens commun, ce qui est quand même pas, j'espère, pas votre but. La fois qui termine tous à sens commun. Le but ensuite, c'est que ces jeunes fassent quoi?
Alors, comme on l'a précisé, hein, de prime abord, ce qui nous importe, ce sont des gens déjà actifs, hein, vous avez dit politiquement, pas tellement, métapolitiquement, dans des mouvements de jeunesse, de scoutisme, etc. Parce que c'est déjà une marque d'engagement, et j'allais dire de caractère minimum de ce qu'on va attendre d'eux. Parce qu'on n'est pas dans une logique de, effectivement, comme le disait Charles Dulac tout à l'heure, de consommation. C'est-à-dire que les gens qui sont sélectionnés ils doivent être cooptés, c'est-à-dire qu'une personne autre doit la connaître avant d'intégrer le cycle. Mais bon, tout ça, ce sont des détails qui intéressent pas forcément les auditeurs. Mais c'est l'idée, l'objectif, c'est bien celui-là, des gens déjà actifs et qui ont vocation à être les cadres du réveil européen de demain, très clairement. Et ce réveil européen, on en a parlé tout à l'heure avec Pierre Brabant, il peut prendre toutes les formes possibles, et la forme politique, aujourd'hui en tout cas, n'est pas forcément la forme privilégiée. Bien, on n'est pas un institut de formation politique, hein. On est vraiment, on se propose d'organiser ces cycles de formation comme une refondation intellectuelle, au sens en tout cas de transmission de savoir, parce qu'effectivement tous les gens qui interviennent sont des gens qui connaissent très bien leur sujet, enfin de très bon niveau. Ils ont une volonté de transmettre un certain nombre de connaissances, mais pour en constituer un socle, et ensuite ces connaissances digérées, chacun en fait ce qu'il veut, mais j'allais dire d'une personne un peu active ou déjà engagée politiquement, métapolitiquement, de manière associative à l'entrée du cycle, elle devient en sortie de cycle un cadre des engagements futurs, quelle que soit leur forme. En fait, c'est ça toute l'originalité de la formation dont on parlait, c'est que on ne sait pas quelle sera la situation demain, si ce n'est qu'elle sera vraisemblablement plus chaotique qu'aujourd'hui. En tout cas, tout le laisse présager. Ou en tout cas, l'imprévu sera de retour. On ne sera plus avec un Premier ministre, comme on le disait tout à l'heure, qui pourra faire de l'injonction à l'Assemblée nationale et comme ça convoquer des bataillons d'électeurs qui répondront de moins en moins. Enfin bon, on sera sans doute dans une autre logique, parce qu'il en va aussi de la survie de notre civilisation. Partant de là, les gens, je finis là-dessus, eh ben, ils ont été formés, ils ont vocation à retransmettre derrière eux et être en fait plus actifs et plus efficaces dans leur combat personnel, communautaire, politique, s'il le faut, au service très clairement des valeurs de la civilisation européenne.
Pierre Brabant.
Je pense qu'il faut aussi recontextualiser la naissance de cet institut. D'ailleurs, d'autres cercles de formation qui ont été évoqués tout à l'heure par Pascal. Il faut voir dans quel marasme idéologique on se trouve. Je vais donner un exemple, c'est l'excellente vidéo qui a été faite par la Fondation Polémia, « Qu'est-ce qu'être français ?» Cette vidéo a été très bien faite, on la regarde, je crois qu'elle est à plus de 600 000 vues, elle paraît évidente. Pourtant, il a fallu refaire une vidéo pour expliquer qu'est-ce qu'être français. Alors, l'Institut Iliade porte un peu la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Qu'est-ce que c'est qu'être européen? C'est quelque chose de simple et de naturel, mais qu'on ne sait plus dire, qu'on ne sait plus édicter à force de pédagogisme, à force de marasme idéologique. Et on en est là. On est à la recherche de personnes éveillées qui soient capables de rallumer une flamme qui ne s'est jamais éteinte, mais qui est noyée sous les eaux du politiquement correct, etc.
Et du relativisme.
Enfin,
bon, y a beaucoup de choses qui entrent en compte.
Donc c'est vraiment dans ce contexte-là. Donc peut-être qu'il y a des esprits chagrins qui diront bon, ben moi je sais ce que c'est qu'être européen, je sais ce que c'est qu'être français. Sauf que nous, on s'adresse indirectement par des cadres ou des élites, on peut les appeler comme ça, intermédiaires, à notre peuple, pour qu'il retrouve son histoire, qu'il retrouve sa mémoire, pour combattre ce grand remplacement. Enfin, donc il faut faire cet effort-là.
Alors vous êtes sur Radio Courtoisie et nous recevons actuellement une partie de l'équipe de l'Institut Iliade. Pierre Brabant, vous êtes aussi, parce que l'Institut Iliade ça va pas être simplement de la des week-ends de formation, vous occupez aussi de ce qui se passe sur Internet. Aujourd'hui on ne peut pas faire autrement, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, que ça soit Twitter ou Facebook, et il y a aussi le site de l'Iliade. Qu'est-ce qu'on trouve? C'est une continuité de ce qui se fait pendant ces week-ends, ou alors là on essaye d'atteindre un plus large public?
On essaye d'atteindre un plus large public, tout à fait. C'est un site grand public qui fonctionne d'ailleurs très bien. Le nombre de vues, de clics augmente au fur et à mesure. Donc j'invite évidemment tous les auditeurs de Radio Courtoisie à se rendre sur institut-iliade.com pour se rendre compte des différentes rubriques qui vont de la BD Tech idéale à un abécédaire sur les grandes pensées, les grandes citations qui ont jalonné l'histoire de l'Europe et sur lesquelles on peut s'appuyer au quotidien, sur une bibliothèque idéale, essentiellement des essais de philosophie, géopolitique, d'histoire, etc. Pour le moment, nous n'avons pas abordé les romans à proprement dit.
Mais qui sont, c'est pas simplement une liste comme ça par alphabétique, c'est vraiment un vrai classement
avec
des faits.
Tout à fait, avec des notes de lecture. Donc c'est une introduction, on va pas prémâcher aux gens le plaisir de la lecture. Il existe sur ce site internet une rubrique tradition. Donc là, par exemple, je crois que demain, il y a un article sur Pâques, la fête d'Ostara, vieille fête européenne qui va sortir, qui remet en perspective cette fête. C'est un bon exemple. Aujourd'hui, on continue en France à faire la chasse aux œufs. Dans tel pays, ça va être le lièvre. Simplement, beaucoup de donc, contemporains, il leur manque, on va dire, le dernier fil pour donner du sens, pour expliquer. Et au moment où ils ont ce fil, ça va les relier à leur famille, ça va les relier à leurs voisins, à leur histoire, et à ce moment-là, ils vont prendre une nouvelle dimension. Et à ce moment-là, les peuples deviennent indestructibles et forts. C'est ça qu'on recherche à créer quand on parle de ressourcement, quand on parle de mémoire. C'est non pas d'être passif. D'ailleurs, Nietzsche lui-même l'avait dit, attention à la mémoire. Il faut savoir aussi de temps en temps s'en départir pour gagner sa liberté. Simplement, nous, on est dans une étape intermédiaire où il faut s'appuyer sur la mémoire, se ressourcer pour ensuite gagner en liberté. On aborde donc toutes ces fêtes traditionnelles qu'on peut retrouver sous forme profane, religieuse, semi-religieuse aujourd'hui en Europe, et qu'il est très intéressant d'étudier de près et surtout de pratiquer. À chaque fois, les articles sont pratico-théoriques. Qu'est-ce que j'ai oublié sur le site? Je crois que j'ai fait un...
Ouais, si, il y a un point qui est important.
Charles Dulac.
Oui, ce sont les itinéraires européens.
Tout à fait.
Qui est encore une fois quelque chose de, je pense, d'assez novateur. Donc les itinéraires européens, c'est quoi? C'est, pour prendre un peu le dernier atelier de ce premier cycle de formation, c'est définir les hauts lieux d'Europe et écrire des fiches qui sont vraiment, vraiment pratiques pour le coup, qui permettent de retrouver ces hauts lieux d'Europe, par exemple le Mont Saint-Michel, pour en citer un très connu du monde entier, et qui vont, voilà, donner une explication du Mont Saint-Michel, expliquer pourquoi c'est un haut lieu d'Europe, qui vont donner tout un tas d'informations pratiques, comment y aller, est-ce qu'il faut y aller avec la navette, ou est-ce qu'il vaut mieux traverser à marée basse la baie du Mont Saint-Michel. Bon voilà, c'est ce genre de choses, donc c'est vraiment du pratique, c'est à l'usage évidemment du plus large public, et ça permet de montrer que la civilisation européenne, elle n'existe pas simplement dans des interventions intellectuelle dans les livres, mais que c'est quelque chose qui se vit au jour le jour, comme le disait tout à l'heure Grégoire.
Qui s'incarne.
Oui, pour bien préciser, pour que les auditeurs de Radio Courtoisie aient bien compris que c'était pas le guide du routard non plus, c'est vrai que ce sont des lieux. Quoi? Qui se visitent à pied. Enfin, c'est-à-dire que les itinéraires,
tout à fait,
en fait, sont écrits par des gens qui les ont fait à pied, sur les randonnées de 2-3 jours en général.
Oui, c'est pas les horaires du TGV.
Voilà, tout à fait. C'est parce qu'il y a quand même aussi cette recherche dans le ressourcement. Il passe aussi par le retour à des sensations physiquement plus importantes que celles qu'on connaît dans le métro.
L'exemple du guide du routard est pas idiot par rapport à la première partie de l'émission sur l'hégémonie culturelle.
Il manque
un
guide du routard pour nous. Oui, c'est sûr.
C'en est un très très bon exemple. Oui. Aujourd'hui, ce sont des bons soldats du mondialisme, et ils ont commencé avec des cafards dans les cheveux.
Oui. Alors, en voyant les... là, je vais faire un peu ma mouche de coche. En voyant les principaux responsables, Jean-Yves Le Gallou, Philippe Conrad et Bernard Lugan, surtout pour les deux premiers, on pense forcément aux Grecs. Il y a déjà des journalistes, mais ce sont forcément des journalistes de gauche, qui sont persuadés que c'est la renaissance d'une sorte de Grèce bis. Pourtant, il y a une vraie différence. On n'est pas dans une continuité. On pourrait être sur une continuité intellectuelle, mais en tout cas dans l'organisation et dans les propositions, l'Institut Iliade, c'est pas le Grèce.
Non, sachant que ça n'a rien d'affamant, vous l'aurez bien compris. Non, et d'ailleurs, l'émission l'a bien montré. Mais bah, Michel Onfray reconnaît parfois la pertinence des écrits d'Alain de Benoît. Donc on serait quand même peu
ingrat
de nous de considérer que nous, bah non, pas du tout, nous n'avons jamais lu Alain de Benoît, entre autres. Ceci dit, bon, c'est une question qu'on nous pose souvent, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais je pense que pour être le plus clair possible, il y a au moins deux différences de taille. La première qui tient au moment historique, et la deuxième aux objectifs de l'Institut. Le moment historique, je vais pas le rappeler, on va le faire court, mais je pense que le grand remplacement, on ne se posait pas de la même façon dans les années 70, où il était une éventualité, à la limite, et encore, hein, parmi des esprits audacieux, alors qu'aujourd'hui, il est une réalité. Donc il y a quand même un moment historique qui est très différent. En tout cas, en ce sens, il y a aussi un retour du tragique qui est beaucoup plus palpable, et je pense que aussi le sacrifice volontaire de Dominique Vénère participait aussi de ce retour du tragique que l'on voit bien monter un peu partout, en tout cas à travers la planète et sur notre sol aussi. Donc le moment n'est pas le même. Accessoirement aussi, il n'est pas le même parce que nous arrivons à des fins de cycle idéologiques, notamment de la gauche. On en a parlé en première partie d'émission, alors que dans les années 70, c'était l'hégémonie totale, et le Grèce, et donc ce qu'on a appelé ensuite la nouvelle droite, était vraiment, c'était de la flibusterie par rapport à quand même une idéologie qui était installée partout à l'université, etc. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on cette idéologie s'achève, mai 68 s'achève, comme le disait aussi Zemmour. Enfin, on arrive à la conjonction de fin de cycle historique qui ouvre d'autres perspectives, d'autres possibilités, d'autres imprévus, on vient de le voir, mais aussi d'autres types d'actions. Donc le moment historique n'est pas le même, et donc c'est surtout le risque du grand remplacement qui est très prégnant et qui n'était pas, bien sûr, chez la plupart des intellectuels du Grèce. Le deuxième tient aux objectifs. Nous sommes beaucoup moins, pour le coup, audacieux, peut-être, hein, on l'a dit tout à l'heure. Nous, notre objectif, c'est de transmettre un héritage. C'est pas de faire de la refonte, une école de pensée, de refonder, de trouver de nouvelles idéologies pertinentes pour le 21e siècle. Je pense qu'il y a d'autres instances et d'autres courants, des revues comme Éléments, par exemple, y contribuent. Nous sommes beaucoup plus pragmatiques. Notre vocation, elle est pédagogique au sens exact du terme. Nous sommes, comme le disait tout à l'heure Pierre Brabant, je crois, des porteurs de flammes. On transmet un flambeau. C'est notre rôle, parce qu'on pense qu'il y a aussi des failles, que l'éducation nationale a totalement échoué, beaucoup plus là aussi encore que dans les années 70. Enfin, là, on en voit les résultats prégnants. On voit encore les attaques contre le latin et le grec tout récemment. Il y a une urgence de ne serait-ce que transmettre un socle minimum de connaissances de ce que nous sommes, de valeurs partagées, de projections dans l'histoire. Et c'est ça notre vocation. D'où le fait qu'en plus, de facto, on s'intéresse davantage à l'histoire, qui était aussi permettait à Dominique Venner aussi d'avoir cette vision métapolitique bien connue. C'est l'histoire qui est quand même le ferment de ce que nous sommes, de notre identité, de notre façon de posséder notre espace, et aussi qui laisse la place, une fois de plus, à l'imprévu. Donc voilà, nous ne sommes pas une école de pensée, nous sommes plus dans un rôle de transmission, de pédagogie, et le moment historique, pour le coup, n'a plus grand-chose à voir. La France, regardez, parce qu'il y a plein de gens qui contestent, il paraît, le grand remplacement. J'aimerais bien voir la station Barbès en 72, à l'été, enfin même à l'été 79, puisqu'on parlait de la campagne contre le Grèce, et aujourd'hui, je pense que voilà, les deux photos seraient magnifiques.
Avec ou sans Ardisson?
Voilà, alors Ardisson,
c'est au Louvre. Parce que là, les auditeurs de Radio Courtoisie ne vont pas très bien comprendre.
Allez-y, Pierre Brabant. Ardisson mène le combat de sa vie. Il veut empêcher les kebabs de la rue Rivoli, qui s'installent rue Rivoli, et il explique que les kebabs sont très bien à Barbès.
Voilà. Oui. Il n'a pas tort. C'est vrai que le côté exotique de Barbès va bien avec le kebab, mais dans la rue de Rivoli, il veut garder, à mon avis, il habite pas très loin.
Ouais. Hein, je pense qu'il peut aussi demander leur avis aux derniers autochtones de Barbès.
Voilà.
Je pense qu'ils échangeraient bien.
Et le communautarisme s'installe tranquillement en France, en Europe.
Alors, autre événement, après cette mini-page à Ardisson, autre événement important de l'IAT, c'est son colloque annuel, et le prochain, c'est le 25 avril. Pierre Brabant, vous allez nous en parler, parce que vous êtes en plein dans l'organisation, déjà, le thème du colloque.
Alors, c'est un colloque annuel, hein, vous l'avez bien précisé, toujours au printemps, là, c'est le 25 avril, un samedi, consacré à l'univers esthétique des Européens. Donc un colloque qui est organisé par l'Institut Eliade, qui commencera à 14h pour s'achever à 19h. Je vais tout de suite donner quelques petites infos pratiques.
Oui, à la maison de la chimie, oui.
Voilà, c'est dans un lieu très prestigieux du centre de Paris. Donc pourquoi Paris? C'est vrai que c'est central pour réunir beaucoup de personnes qui veulent suivre les orateurs. Pourquoi pas un jour un colloque ailleurs en France? On ne s'interdit rien du tout.
Je vous le conseille peu, parce qu'en règle générale, vous avez des gens de province qui sont contents, puis il y en a d'autres qui râlent parce que
c'est l'autre province,
la France.
Donc, c'est clair, mais c'est voilà. Bon.
Donc
à la maison de la chimie. Donc la maison de la chimie se trouve 28 rue Saint-Dominique dans le 7e arrondissement à Paris. Et donc toutes les personnes, on va évidemment présenter ce colloque qui sera très riche, qui souhaitent acheter leur billet en ligne. Je les encourage, même si on peut acheter le billet sur place.
Oui.
Mais pour le moment, on a beaucoup de réservations. passion, donc je les encourage vraiment à acheter tout de suite leurs billets en ligne, oui, sur internet.
Oui, d'autant Pierre Brabant, pour les auditeurs c'est important, l'année dernière, parce que c'est un colloque annuel, donc l'année dernière, au même lieu, hein, Maison de la Chimie, alors colloque qui était consacré à Dominique Vénère,
à la figure de Dominique Vénère, son
historien au cœur rebelle, écrivain historien au cœur rebelle, il y a eu plus de 500 personnes, et donc la salle était pleine très rapidement, donc pour les gens intéressés, il faut pas tarder pour s'inscrire, enfin mieux vaut prendre sa place tout de suite.
Voilà, donc c'est un site de vente de billets en ligne qui est très bien fait, qui est très clair, limpide, qui s'appelle WithEvent, donc c'est de l'anglais, hein, vous tapez www.withEvent, WEEZEVENT.com. Institut Iliade, vous tombez dessus, ou vous allez directement sur le site de l'Institut Iliade ou sur, oui, les réseaux sociaux pour aller sur la billetterie. Donc en quelques mots, ce colloque consacré à l'univers esthétique des Européens, il aurait presque pu s'appeler Esthétique d'abord, comme un cri de guerre, hein. On a rappelé la dimension.
On n'avait pas encore parlé de Maurras ce soir, mais bon, allons-y.
Combattante.
C'est Pierre Brabant qui s'y colle.
Mais c'est bien de mettre européen, je trouve ça, voilà.
Oui, c'est amusant.
Voilà. L'esthétique, c'est un prolongement, c'est ce qui porte une vue du monde. Et l'esthétique, c'est à la fois dans la forme et le fond, ce qui va permettre de définir une civilisation. L'esthétique africaine est différente de l'esthétique européenne, qui est elle-même différente de l'esthétique asiatique, et c'est très bien comme ça. Ça s'appelle la polyphonie du monde. Il y aura d'ailleurs une intervention à ce sujet de Jean-François Gauthier, qui va parler de la polyphonie du monde, mais aussi de la polyphonie de la pensée et de l'esthétique européenne, notamment à travers la musique classique et des premières polyphonies écrites à Notre-Dame au XIIIe siècle. C'est une conférence que j'ai commencé à lire, qui est absolument passionnante, avec donc quelques passages musicaux dans la Maison de la Chimie. Et on a donc des intervenants de premier plan, Alain de Benoît qui va intervenir sur l'art européen, un art de la représentation, finalement c'est ce vieux débat iconoclaste, iconodule, l'actualité extrêmement violente et triste du Moyen-Orient, quand on voit les fous d'Allah détruire des musées, de vieux Bouddhas, de vieilles traces de civilisations antiques, je pense que ça a apeuré, attristé tout le monde. La menace se rapproche, ici aussi en Europe, donc il s'agit de bien comprendre qu'est-ce qui fait notre spécificité, notre différence. Nous représentons les divinités ou Dieu, nous représentons les femmes, ça fait partie des spécificités de l'art et de l'esthétique en Europe. Dominique Vénère d'ailleurs insistait beaucoup sur cet aspect, sur la présence de la femme au cœur de la civilisation européenne. On le retrouve forcément dans ce colloque consacré à l'esthétique. D'ailleurs, nous avons nos petites mains, des bénévoles de l'Institut Iliade qui travaillent sur de grandes tentures que vous verrez à cour et jardin de la scène de la Maison de la Chimie. Et une de ces tentures, c'est Diane Chasseresse, donc un vieux motif qu'elles ont traité de façon très intéressante, un peu art déco, qui est coiffé d'un croissant de lune, parce que Diane était aussi la sœur d'Apollon, protectrice des femmes enceintes, une déesse lunaire. Donc la figure féminine au cœur de l'esthétique sera aussi au cœur de ce colloque. Alain de Benoît, donc, sur l'art européen, un art de la représentation. Jean-François Gauthier, on a parlé sur la polyphonie du monde. Slobodan Despot, qui nous vient de Suisse, hein, d'origine serbe, interviendra sur l'art européen et le sentiment de la nature. Christopher Gérard interviendra dans le cadre d'une discussion avec une sorte d'apprenti ou de novice un jeune padawan qui l'interrogera. Une discussion va débuter.
Alors pour les éditeurs de Radio Courtoisie, les Padawan, c'est dans la guerre des étoiles. Voilà, oui. C'est pour.
Voilà.
C'est pas un peu du bon.
C'est vraiment privé de jeu. Ils discuteront ensemble, en prenant à partie d'une certaine façon la salle, sur la beauté et le sacré. À noter également des interventions d'intervenants, excusez-moi, je suis redondant, européens, hein, venus d'Italie, d'Allemagne, du Portugal, et une intervention française d'une bretonne de France, une bretonne d'Europe, qui interviendront chacun sur un haut lieu européen. Avec beaucoup d'illustrations et une fois de plus, c'est un petit peu ce qu'on essaye de transparaître dans notre explication de ce qu'est l'Iliade. Tout doit s'incarner. Un lieu, il doit se parcourir. C'est pour ça qu'on propose des itinéraires. Un lieu, il doit s'observer en dehors des émissions de télé. Donc, on essaye au maximum de faire cette pédagogie à ce que les Européens se réapproprient ce qu'ils ont. On a un trésor, mais qui est caché. Voilà en quelques mots pour ce qui concerne les intervenants. Et ensuite, c'est surtout aussi une rencontre. Le foyer de la Maison de la Chimie, c'est un grand foyer dans lequel, au cours de plusieurs pauses, nous pourrons discuter ensemble. Les intervenants sortent, on peut discuter avec eux et surtout faire le tour sur de nombreux stands. Donc on retrouve évidemment, comme l'année dernière, les livres de Dominique Vénère, mais aussi beaucoup d'autres revues. On retrouvera notamment, et je les salue chaleureusement, la revue littéraire non conforme Livre Arbitre, qui sortira un numéro spécial consacré à ce thème. Donc, on retrouvera les interventions des orateurs du jour. Donc, ce sera finalement un peu une sorte d'acte du colloque, mais aussi des textes inédits, comme Livre Arbitre sait très bien le faire. Donc, ils seront là, tous les fans de la revue sont invités.
L'équipe, ouais.
Voilà, sont invités à s'inscrire à ce colloque pour retrouver leur revue. Et enfin, je souhaite saluer d'autres personnes. Ce sont des artistes qui ont joué le jeu qu'on leur a proposé, celui de la carte blanche, pour illustrer l'univers esthétique des Européens. Donc, on a sollicité ces artistes parce que il n'y a pas que de l'art caché, il n'y a pas que de l'art de lacé, pardon. Il y a aussi des artistes qui continuent, qui perpétuent la geste européenne. Et qui souvent ont de nouvelles techniques, hein. Ce sont des illustrateurs sur ordinateur, ils travaillent le vectoriel, mais leurs inspirations, les thèmes choisis sont vraiment un prolongement des plus grandes œuvres d'art. Donc je vais vous citer quelques artistes, il y en a d'autres qui vont arriver, et d'ailleurs si des artistes nous écoutent en ce moment, ils peuvent tout à fait se présenter. Ils peuvent prendre contact avec nous. Notre objectif aussi, c'est un objectif de réseau, de mettre en avant les talents. Il y a l'artiste Gérard Brunet qui fera un hommage, un très bel hommage aux compagnons bâtisseurs. Une autre œuvre assez onirique qui vraiment évoque l'énergie, celle du sport très présent en Europe. Il y a l'artiste Mario Marshall qui traite un vieux sujet qui est la triade indo-européenne. Willy qui rend un hommage à Minerve, mais un peu de façon archéo-futuriste. C'est une très très belle réalisation. Auric, un illustrateur très jeune, talentueux, là qui pour le coup dans son affiche met vraiment en avant, on va dire, le côté prométhéen des Européens, notre goût pour l'aventure et la conquête. Et il y a PL en face de moi, qui s'est prêté au jeu, hein, PL qui a participé. Comment, bah allez-y, décrivez-nous.
Non, mais les gens iront voir.
Incapable de parler de moi. En résumé, si vous me permettez, pour ceux que les conférences, pour qui les conférences, qui trouvent les conférences un peu ennuyeuses, sachez qu'il y aura beaucoup beaucoup de choses de belles choses à voir pendant ce colloque. Voilà, une autre originalité de l'Institut Iliade.
Il nous reste quelques minutes à peine. Grégoire Gambier, vous.
Tout à fait, puisque c'était pour.
On va retrouver aussi la nouvelle revue d'histoire.
Voilà, on va faire une belle transition, pense, parce que vous me demandiez tout à l'heure quelle est la différence entre Grèce et l'Institut Iliade. Alors, vous avez compris, il y a effectivement le colloque qui ont un style un petit peu plus dynamique et imagé que ce qu'a pu être ce qu'ont pu être les oui. colloques du Grèce en tant que évidemment école de pensée, donc en train de transmettre des connaissances ou des interrogations intellectuelles, et surtout effectivement l'histoire. J'y reviens, il y aura des parmi les revues qui auront des stands, il y aura Éléments, la nouvelle revue d'histoire. J'y reviens parce que peut-être que je l'ai pas dit assez bien et que le thème de cette année du colloque ne s'y prête pas beaucoup. L'Institut Iliade, vraiment, on tient l'histoire, parce qu'aussi l'histoire, c'est ce qui nous permet d'appréhender la polyphonie du monde, mais aussi la polyphonie, la variété de notre civilisation. Et peut-être, contrairement à ce qu'a pu être, ce qu'ont pu être certaines expériences il y a quelques années, nous, à l'Institut Iliade, comme on s'attache à l'histoire, on reconnaît la diversité des faits historiques, y compris des faits des nations et des religions dans la culture européenne, sans les nier, essayer d'imaginer autre chose qui n'aurait pas existé historiquement. Donc c'est aussi un aspect complémentaire, mais je pense que vous voulez maintenant présenter la nouvelle revue d'histoire.
On va pas la présenter, il nous reste à peine une minute. Simplement, je rappelle, oui, effectivement, la nouvelle revue d'histoire, il y a le numéro 77 qui vient de sortir, 1940, l'étrange défaite. Donc je rappelle que l'Institut Iliade, si vous voulez en savoir plus, c'est samedi 25 avril 2015 à 14h, c'est Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique dans le 7e à Paris. Et allez sur le site institutiliade.com, c'est ça, vous pourrez prendre les informations et pouvoir aussi vous inscrire pour le colloque. Ça
Institut-Iliade.com.
Voilà. Cette émission est terminée. J'espère que vous avez été intrigués et passionnés, que vous allez vous retrouver le 25, et vous retrouverez bien sûr effectivement Charles Dulac, Pierre Brabant et Grégoire Rambier qui seront prêts à vous accueillir
avec plaisir
à ce colloque. Voilà, nous on se retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle émission des Chroniques de la Vieille Europe. Vous pouvez nous réécouter jeudi soir à la même heure. En tout cas, restez sur l'antenne de Radio Courtoisie.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life.
Always look on the bright side of life.
nothing will come from nothing. You know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.